Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier sur Radio Boomerang 89.7 FM. Bonjour à toutes et à tous. Jeanne Boursier pour Chronique d'un siècle sur Radio Boomerang 89.7 FM. Aujourd'hui, je commence une petite série sur Victor Hugo, ou plus exactement sur les héros de la résistance à l'hugolatrie. Cette série sera diffusée entre deux chroniques ou deux épisodes d'une même chronique. Vous pouvez toujours partager vos impressions sur ma page Facebook Chronique d'un siècle ou sur mon site chroniquedunsiècle.com. Cette nouvelle série s'intitule « Pour en finir avec Hugo ». Pourquoi ? Parce que je ne supporte plus cette hugolatrie maladive que l'on trouve à toutes les strates de la société. Hugo a écrit cela. Hugo a pensé ceci. Hugo a fait. Hugo a dit. Il est toujours cité par un homme politique, un écrivain, un journaliste, un Pékin quoi. Toujours à la une. Toujours à la une d'un hebdomadaire, d'un quotidien, d'un mensuel. Victor Hugo, le maître, est devenu la panacée de la référence culturelle. Moi et ceux de ma génération, les sexagénaires, subissions dès la primaire les dictées et les poésies de Victor Hugo. Au collège, nous apprenions à rédiger, à commenter à partir des textes de Hugo. Au lycée, nous commencions à en avoir par-dessus la casquette du père Hugo. Dès mon plus jeune âge, j'ai découvert comment le XXe siècle s'était approprié Hugo à travers le film « Les Misérables » dans lequel Harry Bore interprétait Jean Valjean. C'était un film en noir et blanc qui m'impressionna fortement. Puis, j'étais reconnaissante à Hugo puisque grâce à sa légende des siècles, il avait permis à mon père de perfectionner son français, d'impressionner ma mère et de faire accepter à ma grand-mère un mariage qui n'entrait pas dans les mœurs de l'époque. Je me souviens d'un texte en particulier que j'avais étudié en cinquième. Dans mon livre scolaire « La pensée et la vie », ce texte, extrait de la lettre 29 du Rhin, s'intitulait « En mal poste, une nuit fantastique ». Rien n'est comparable au rêve d'un sommeil chaoté. On dort et l'on ne dort pas. On est tout à la fois dans la réalité et dans la chimère. C'est le rêve amphibie. De temps en temps, on en trouve la paupière. Tout a un aspect difforme, surtout s'il pleut, comme il faisait l'autre nuit. Le ciel est noir, ou plutôt il n'y a pas de ciel. Il semble qu'on aille éperdument à travers un gouffre. Les lanternes de la voiture jettent une lueur blafarde qui rend monstrueuse la croupe des chevaux. Par intervalles, de farouches tignasses d'ormeaux apparaissent brusquement dans la clarté et s'évanouissent. Les flaques d'eau pétillent et frémissent sous la pluie comme une friture dans la poêle. Les buissons prennent des airs accroupis et hostiles. Les tas de pierres ont des tournures de cadavres gisants. On regarde vaguement. Les arbres de la plaine ne sont plus des arbres. Ce sont des géants hideux qu'on croit voir s'avancer lentement vers le bord de la route. Tout vieux mur ressemble à une énorme mâchoire édentée. Tout à coup, un spectre passe en étendant les bras. Le jour, ce serait tout bonnement le poteau du chemin, et il vous dirait honnêtement, route de Coulommiers à Cézanne. La nuit, c'est une larve horrible qui semble jeter une malédiction aux voyageurs. Et puis, je ne sais pourquoi, on a l'esprit plein d'images de serpents. C'est à croire que des couleuvres vous rampent dans le cerveau. La ronce siffle au bord du talus comme une poignée d'aspic. Le fouet du postillon est une vipère volante qui suit la voiture et cherche à vous mordre à travers la vitre. Au loin, dans la brume, la ligne des collines ondule comme le ventre d'un boa qui digère et prend dans les grossissements du sommeil la figure d'un dragon prodigieux qui entourerait l'horizon. Le vent râle comme un cyclope fatigué et vous fait rêver à quelque ouvrier effrayant qui travaille avec douleur dans les ténèbres. Tout vit de cette vie affreuse que les nuits d'orage donnent aux choses. Les villes qu'on traverse se mettent aussi à danser, Les rues montent et descendent perpendiculairement. Les maisons se penchent pêle-mêle sur la voiture et quelques-unes y regardent avec des yeux de braise. Ce sont celles qui ont encore des fenêtres éclairées. Vers 5 heures du matin, on se croit brisé. Le soleil se lève, on n'y pense plus. Je me souviens encore de mon enthousiasme à répondre aux questions que l'on posait à l'époque sur un texte comme celui-ci et de l'impression durable que ce texte me laissa. Pendant des années, lorsque nous partions la nuit en voiture avec mes parents, je leur parlais de ce texte et, devenue conductrice, seule dans la nuit, je me le remémorais. Mes parents, devant mon obsession de Hugo, m'emmenèrent visiter sa maison, place des Vosges. Elle était toujours fidèle à Hugo. L'odeur de cire et de vieux papier me transportait dans un monde que je regrettais et que je désespérais de n'avoir pas connu. 1975 fut une année Hugo. Édition, film, théâtre, tous voulaient dignement souhaiter les 90 ans de la mort du maître. Mes 15 ans se laissèrent séduire par le romantisme et, curieuse de voir la pièce à l'origine du théâtre romantique, j'allais la voir. Elle était malheureusement montée par Robert Hossein, qui, comme on le sait, aimait le grandiloquent, le pompeux. Malgré cela, je pus revivre dans mon imagination les scènes de la fameuse bataille d'Hernani qu'un professeur de français exalté avait su nous rendre vivantes. Dans la foulée, j'allais au Nouveau Carré voir jouer Lucrèce Borgia, interprétée par Sylvia Monfort. Cette tragédienne de talent ne pouvait que mettre en valeur le texte de Hugo. D'ailleurs, écoutais-je seulement le texte, fasciné que j'étais par son interprétation magistrale. Oui, je l'avoue, je fus une adepte de Hugo. Je me laissais prendre au piège par le rayonnement du maître, allant jusqu'à me passionner pour sa vie, lisant tout ce qui pouvait me renseigner sur cet homme génial qui, selon tous, avait fait le 19e siècle, avait été non seulement une figure incontournable de la littérature, mais aussi un redoutable polémiste, un homme d'action, un politique courageux, ayant tenu tête à Napoléon III, prenant même la défense des communards. En fait, tout ce qui a été fait de bien au 19e siècle vient de près ou de loin de sa pensée. On arrive à se demander si le 20e siècle aurait existé sans lui. Abolition de la peine de mort, texte de Victor Hugo. République, discours de Victor Hugo. Résistance, encore du Hugo. Opposition, toujours du Hugo. Et sur Facebook, des dizaines de citations authentiques ou inauthentiques, peu importe, puisque cela était déjà pratique courante de son vivant. J'avoue que mon mari, lui, a réussi l'exploit, dont il n'est pas peu fier d'ailleurs, de ne jamais être tombé dans le piège de la poésie hugolienne. Et il répète à qui veut l'entendre que sa lecture des Misérables ou de Notre-Dame de Paris lui procura le même plaisir que Rocky 1 ou Rocky 2. Rien de plus. Je ne sais quel événement précis transforma mon début d'hugolatrie en hugophobie, mais je me souviens du dégoût que j'éprouvais un jour pour Hugo. C'est alors que j'éprouvais le besoin de diriger mes recherches vers la lecture de témoins qui l'avaient connu, fréquenté, et qui avaient pu constater que le maître n'était pas toujours à la hauteur de sa réputation, ou bien qui possédait encore assez d'indépendance d'esprit pour ne pas crier au génie avec la meute. Alors il me semble qu'il est temps pour moi d'en finir avec Hugo. Je commencerai doucement pour ne pas choquer. Aussi ai-je choisi comme auteur critique de Victor Hugo Gaston Jolivet. Encore un auteur que l'on ne peut taxer d'hugolatrie, ce sympathique Gaston Jolivet. Mais qui était-il, me direz-vous ? Fils d'un député tué en sauvant un soldat blessé lors de la Révolution de 1848, il fit ses études de droit, tenta de plaider, mais sa plaidoirie, commencée par un tonitruant « Monsieur le tribunal », déchaîna une telle hilarité dans le public et chez les magistrats que son client abattu déclara d'une voix molle « J'aime mieux avouer, mon président ». C'en était fini du métier d'avocat. Il fit un peu de politique, vécut la guerre de 1870, le siège de Paris et la Commune, puis se lança dans le journalisme grâce à Houssaye et d'autres journalistes. Bref, il fut un de ces hommes du 19e siècle, journaliste, écrivain, vaudevilliste, qui connut tout le monde et dont les souvenirs sont très souvent jubilatoires. Ainsi, cette anecdote sur la biche, qui détestait la musique et qui fut dans l'obligation, lors d'une soirée chez la princesse Mathilde, de complimenter Liszt après sa prestation. « Brave homme, la biche se lève en soupirant, fend le cercle qui entourait Liszt, assis encore au piano, arrive près du maître et lui frappant suavement sur l'épaule, lui dit de sa voix la plus aimable « Vous devez être content, petit tapoteur. » Remettons-nous dans l'ambiance de ce salon avec « Songe d'amour » de Liszt, interprété par Georges Siffra. Dans ses souvenirs d'un Parisien, le dernier de ses livres écrit peu de temps avant sa mort, Gaston Jolivet trace en fin d'ouvrage quelques portraits de ceux qui avaient marqué son époque. Et ce qu'il écrit sur Hugo me met en joie. Joie que vous partagerez, j'espère. Car l'humour de cet écrivain et journaliste met bien en évidence la sinistrose de ceux de notre époque qui prennent au sérieux tous les sujets qui passent entre leurs mains. Je ne voudrais pas causer une peine même légère à l'ombre multiple et diverse du grand Victor Hugo en l'installant seulement au milieu des souverains. Mais comme je n'ai pas réservé dans cet ouvrage un chapitre à la divinité, j'ai cru faire au mieux en réservant à l'auteur des châtiments ce coin modeste et évidemment indigne de lui. Victor Hugo a fourni plus de copies aux fantaisistes, plus de mots aux humoristes, plus de calembredaines aux farceurs que Sarah Bernhardt elle-même. Non pas certes qu'on méconnût son génie poétique, mais il y avait une telle vanité naïve, un tel orgueil inné, une prud'hommerie si bouffonne en ce grand homme, qu'il ne pouvait moins faire que de susciter la plaisanterie ou la satire. Je crois que le meilleur mot qu'on ait fait sur lui est de Philippe Gilles. Le spirituel rédacteur du Figaro suppose un dialogue entre Victor Hugo et le comte de Lille qui étaient amis comme chien et chat. Les deux poètes se trouvent au Luxembourg. Victor Hugo, pensif, assis sur un banc, passe le comte de Lille. Ce dernier s'arrête, le comte de Lille. « Vous, cher maître, pourquoi ce front chargé d'ombre ?» Victor Hugo. « Je songeais à Dieu, que lui dirais-je si j'étais soudain rappelé à lui ?» Le comte de Lille. « Que lui diriez-vous ? Eh bien, vous lui diriez, cher confrère !» J'ai, comme beaucoup d'autres, décoché des épigrammes au grand homme. Je l'ai parfois parodié. S'il a lu les vers que j'ai faits à son sujet, je pense qu'il aura eu pour eux l'indulgence, sinon l'admiration, qu'il ne manquait pas de témoigner aux jeunes ou vieux confrères qui, de tous les coins du territoire ou même des plus lointaines colonies, lui adressaient leurs fantaisies ou leurs essais. Un potache. Vous êtes un enfant sublime, vous aussi. Un receveur des contributions en mal d'Alexandrin. Mon renom s'incline devant votre gloire naissante. À une institutrice sexagénaire. Vous étiez déjà la grâce, vous avez voulu être le génie, etc., etc. En a-t-il débité de la pommade ? Je retrouve à la manière de, que je fis peu de temps après la chute de l'Empire. Ces vers, il y en a peu, amusèrent quand ils parurent. Je les donne comme un signe des temps. Je hais les abattoirs et je maudis les tirs. J'ai l'obstination d'être avec les martyrs. Je suis doux. Au marteau, je préfère l'enclume et les pigeons plumés à marteau qui les plume. Si la nounou saisit entre ses bras l'enfant, pauvre fleur, doux ciron que son âge défend, et le fouette, alors, oh, crois-le bien, cher Meurice, je suis avec l'enfant et contre la nourrice. Lorsque l'enfant, rêveur cruel, fait prisonnier le hanneton qui ronfle au haut du marronnier, le long des grands bois sourds où me lutinait rose, que pour chasser l'ennui de la classe morose, il lui met à la patte un fil, cruel affront, où dans son encrier, lui barbouille le front. Je flétris cet enfant, mais je suis cœur d'archange, mais je suis contre le hanneton pour la fleur qu'il mange. Merci Gaston Jolivet. Eh bien, cette première série se termine donc sur cette note d'humour. Je vous laisse avec Rêve de Ravel, interprété ici au piano par Albert Ciccolini et chanté par Jean-Christophe Benoît. Belle journée, au revoir.
Un enfant court autour des marbres, une voix sourde aux parages. Les yeux si tendres de ceux qui t'aiment songent et passent entre les arbres. Au grand sorgue de quelques gares, gronde la vague des grands départs. Dans un vieux rêve au pays vague, des choses brèves qui
Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier
sur Radio Boomerang 89.7 FM.